pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Depuis 30 ans, l'appareil d'État français entreprend d'en finir avec les foyers de travailleurs émigrés aux lieux de vie et d'organisation pour les remplacer par des résidences sociales. Les habitants doivent quitter les foyers rendus insalubres par le manque de travaux, mais vibrants de vie collective, solidaire, pour se disperser dans des résidences mises aux normes et pensées pour limiter le commun. Si l'État et les gestionnaires parlent confort, finance et rationalisation, une volonté politique de contrôle se dessine en creux. Face à cela, des habitants de foyers luttent pour conquérir leur autonomie. Le samedi 24 mai 2025 avait lieu au foyer Branly à Montreuil la troisième édition des journées culturelles du foyer Branly. Tournoi de foot, films, discussions, radio et cantine étaient à l'honneur. Voilà, alors on est à la journée culturelle du foyer Branly et on est avec M. Toumani pour parler à la fois de cette journée, hein, pourquoi, à quoi elle sert, et puis du foyer Branly en particulier. Donc on peut commencer peut-être comme tu veux par...
Ok, bonjour. Je m'appelle M. Sukuna Toumani. Je suis membre du comité de LR Branly. Je suis élu, ça fait 4 ans. On a une lutte par rapport au changement des foyers, des immigrés. Et depuis en 2019, Adama il est venu chez nous en foyer. Pendant qu'il a été enterré dans un même bâtiment. Donc, avant, pendant qu'il y avait Kolia, un gestionnaire ancien, avec Aftam, ils sont tous anciens. Bon, ils ont fait son temps, bon, il est passé. Bon, là, maintenant, bon, Adama, il vient, bon, il voulait changer toutes les situations des foyers. Okay. Parce qu'ils ont dit que c'est résidence Sonso avec le foyer, c'est pas le même camp. Pendant qu'il voulait changer toutes les situations des foyers.
Quand tu dis changer la situation du foyer, tu parles de quoi? De la manière de vivre?
Voilà, les manières de vie. Mmh. Voilà, par exemple, nous, Africains, bon, on a habité, bon, on a rassemblé, on mange ensemble. Ils ont dit qu'ils vont diviser nous, une personne par ensemble, bon, donc ça ne s'intéresse pas de nous. Mmh. Ça ne m'arrange pas de nous. Et Adama, il a proposé beaucoup de choses avec nous. Ils ont dit qu'il va détruire les foyers. Il va construire des nouvelles résidences sociaux et chambres individuelles. Ils ne sont pas d'accord que pour que même ton propre fils, il va aller avec nous. Bon, donc, François, bon, donc, là, nous, on dit qu'on n'a pas d'accord pour ça. Okay. Parce qu'on a vécu ici presque pendant 40 ans. Bon, on est frère, on est cousin, on est neveu, on a tonton, on a tous vécu ensemble. un seul coup pour que ça va disparaître, bon, cette solidarité. Bon, franchement, c'est quelque chose, ça ne nous renseigne pas du tout. Mmh. Bon, on a fait quelques temps, bon, on fait des dialogues avec la demande. Et finalement, bon, donc, ils ne sont pas à côté de nous, parce que les dialogues qu'on voulait avec eux, mmh. bon, ça ne renseigne pas avec eux. Mmh. Donc, à la fin, bon, donc, il a arrêté les dialogues, bon, il a montré les forces pour qu'il va commencer les travaux. Mmh. Et les travaux, bon, on n'a même pas fini les dialogues. Bon, nous aussi, bon, on a fait des au secours, on a demandé des au secours. Au secours, bon, tous les associations, bon, on demande pour nous, ils vont venir pour qu'ils vont soutenir nous. Mmh. Donc, ils ont un soutien, on a créé des soutiens, bon, depuis en 2003.
D'accord.
Voilà, depuis en 2003, mmh. bon, jusqu'à là. Bon, tous les 6 mois, bon, on va faire des portes ouvertes. Des fois, on veut faire des journées culturelles parce que pour que bon, donc on a reste soudé avec notre soutien parce que toujours la lutte c'est pas fini.
Mmh. Je voulais juste préciser, parce que bon, là, on est dans le foyer. Hein. Oui. Bon, moi, c'est la première fois que je viens dans ce foyer-là.
Oui.
Bon, alors, je vois, il y a une salle de prière, il y a des salles de réunion, il y a une grande cantine. Mmh. Il y a toute une manière de vivre ici qui est très collective. Mmh. Et ça, c'est ce qui n'existera pas dans ce qu'on vous propose dans le prochain foyer.
Oui. Oui, on a proposé tout. Parce qu'on avait les 5 salles collectives ici, cette fois-là. Mm-hmm. Donc, ils ont dit qu'on aura juste une grande salle, 49 mètres carrés, mm-hmm. à part d'assent. Donc, on ne peut pas donner notre salle. Mm-hmm. Bon, on a demandé de notre cuisine collective mm-hmm. pour qu'on va rester une nouvelle résidence. Ils ont dit non. À demain, bon, ils ne sont pas appliqués la cuisine collective dans une nouvelle résidence.
Ouais, c'est ça.
Même la cafétéria aussi, on demande. Mm-hmm. Mais ils ne sont pas acceptés tout ça là.
C'est vraiment un problème. Hein. On en a discuté un petit peu avec les femmes qui s'occupent de faire la cantine.
Ouais.
Mais il y a aussi le fait que de se réunir, ça vous permet de discuter à la fois de la réalité en France, mais aussi de la réalité au pays, mm-hmm. puisque vous êtes tous liés aussi avec votre pays d'origine, que vous aidez d'ailleurs
oui,
financièrement.
Oui, oui.
Et s'il n'y a pas ces salles de réunion, mm-hmm. ça tue complètement
ouais.
cette réflexion collective que vous maintenez dans les foyers.
Oui, voilà, c'est ça. Et le continent, là, il est avec nous. Parce que depuis 1980, notre père qui sont venus ici, bon, ils ont essayé pour que ce qu'il va faire de manger individuellement. Mais s'ils viennent au travail, bon, donc ils ne sont pas d'état pour préparer manger pour le lendemain. Voilà, bon, donc on a essayé de chercher un cuisinier.
Mm-hmm.
Bon, si il vient, on va parler avec le cuisinier.
Mm-hmm.
On peut citer les plats 2 euros ou 1 euro.
Mm-hmm.
Voilà, bon, donc ces discussions-là, si le cuisinier qui a accepté ça, bon, donc il va continuer à faire des manières pour nous.
Mm-hmm.
C'est comme solidarité. Mm-hmm. Voilà, depuis à l'époque là, bon, donc jusqu'à là maintenant. Donc c'est ça qui se continue. Mais demain, il vient, il dit que ça ne marche pas avec eux. Bon, franchement, bon, donc, nous aussi, on dit qu'on ne peut pas laisser notre cuisine.
Mmh.
Voilà, bon, c'est pour cela qu'on a fait lutte pour ça aussi.
Alors, je voulais aussi revenir sur le prix, quoi, parce que moi, c'est la première fois que je viens dans ce,
oui.
dans ce foyer.
Oui.
Et il est extrêmement dégradé.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, on sent que ce foyer, il existe depuis une quarantaine d'années.
Oui.
On a vraiment le sentiment qu'il n'y a eu absolument aucun travaux d'aménagement, de réparation, qui devrait normalement exister.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous dire combien vous payez tous les mois pour quelle surface? Combien vous payez
pour la cuisine, là?
Non, pour vos chambres.
Ah, pour l'ensemble. L'ensemble, c'est... Ensemble, c'est 682 par chambre.
D'accord, 17 mètres carrés.
Ça fait 682 euros.
Donc, avec cet argent-là, ce serait tout à fait logique qu'Adoma fasse
oui.
les travaux qui sont nécessaires à faire pour tout entretien de n'importe quel bâtiment.
Oui.
Donc, ça veut dire que non seulement vous êtes logé dans des conditions relativement dégueulasses, hein, faut le dire quand même,
oui,
à des prix complètement exorbitants,
oui.
c'est vraiment de l'exploitation.
Oui. Voilà, bon, Adoma qui vient avant, notre loyer c'était 240-250. Mais depuis qu'ils sont venus, qu'ils ont augmenté, ils ont augmenté jusqu'à là maintenant, un lit, parce qu'il y a deux lits par chambre, un lit bon, maintenant c'est 341 euros.
Par lit.
Par lit.
Donc du coup, 680 voilà. pour cette voilà. chambre minuscule voilà, pour voilà. deux personnes.
Voilà, pour deux personnes. La vie politique, c'est un peu compliqué.
Ben ouais,
voilà, vous voyez qu'ils se sont dit que nous, on a gaspillé trop de l'eau, on a gaspillé trop de gaz, on a gaspillé trop de bon, électricité. Voilà, bon, donc tous les années, bon, faut qu'il va augmenter dans la loi.
Bon, vous avez une chambre de 17 mètres carrés pour 680 et vous n'avez pas la possibilité théorique d'inviter qui vous voulez dans votre chambre. C'est-à-dire qu'il y a un règlement qui est extrêmement dur concernant vos conditions de vie.
Voilà, exactement. Mais là, on a même on a proposé des choses. Comme depuis 80, les gens qui sont là, ils ont des retraitants. Il y en a un qui est retraité, il y en a un qui est mort. On a demandé aussi pour les transferts des contrats. Ils ne sont pas acceptés ça à 100% aussi. Parce qu'ils se sont dit qu'ils vont accepter les gens qui ne sont pas là, et où il est retraitant, où il est mort. Bon, il va donner la chambre, son fils, il va transférer son chambre à son fils. Mais ce n'est pas les 7 sites-là. Ce n'est pas, voilà, c'est pas ce site-là.
D'accord.
Il va donner un autre site extérieur.
D'accord.
Voilà, bon, donc là maintenant, ils sont droits cassés sur ce bâtiment-là.
Ouais.
Quand on a relogé là-bas,
ouais.
le nouvel bâtiment-là, bon, il va casser ici. Bah, parce qu'on a resté presque 60 personnes qui n'ont pas trouvé de logement. Il y a plein de monde qui reste avec nous, il n'a pas trouvé de logement.
D'accord.
Donc on va demander de négociations avec Adouma s'ils sont d'accord. Pour ça aussi. Mais pour l'instant, bon, donc, ils ne sont pas acceptés.
Donc, en fait, là, actuellement, dans le foyer, il y a combien d'habitants?
Officiel, c'est 195 officiels.
D'accord. Et dans officiel, on est d'accord. Non, mais officiel, plus éventuellement d'autres personnes qui seraient invitées.
430.
Donc, c'est 430.
Ouais.
Et dans les nouvelles constructions que Adoma propose, il y a combien de logements? Pour c'est, combien de personnes?
C'est 135.
Ah ouais, ça fait beaucoup de gens qui restent sur le carreau quand
voilà.
même.
Voilà, c'est 135 qu'il a pris ici.
Mmh.
Bon, donc, et il reste 60 personnes.
Mmh.
Donc 60 personnes qui les restent.
Je voulais aussi prendre un tout petit peu le temps sur la question de la solidarité.
Oui.
Parce que c'est une manière aussi que vous avez de vivre et qui est tout à fait intéressante.
Oui.
C'est-à-dire vraiment la vie ensemble, c'est quelque chose d'important. Où vous vous soutenez, où vous vous entraidez, où il y a beaucoup de solidarité.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose que Adoma veut casser, absolument.
Voilà. Bon, donc, cette solidarité, on voulait qu'on va rester avec. Par exemple, cette cuisine-là, ça intéresse même dans les quartiers. Ça intéressait beaucoup même dans les quartiers. Avant, c'est nous, mais là maintenant, mais même la carte, ça intéressait beaucoup les gens.
Bien sûr.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient acheter pour manger.
Mm-hmm.
Bon, donc, à un moment, ils ont mal compris. Ils ont dit que c'est un commerce informulaire.
Informel.
Voilà, informel.
Ouais.
Voilà, bon, nous, on dit que non. Bon, 1,50 € en cuisse de poulet ou 2 € en plat, ça c'est pas un commerce, ça c'est une solidarité. Donc ça c'est la cuisine des solidarités. Donc ils ont compris que nous on va gagner des autres choses dedans. C'est pas ça. La cuisine, on est d'accord, il va rester. On n'est pas d'accord, il va rester.
Toute cette question de l'alimentation qui est posée aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui ont du mal à se nourrir correctement, parce que la vie est de plus en plus chère et il y a de plus en plus de gens qui sont dans la merde. Et cette cuisine, elle, à la fois, elle aide les résidents du foyer, mais elle aide beaucoup d'habitants de Montreuil, de là où vous êtes implanté, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent justement chercher à manger, ou éventuellement même qui viennent chercher à manger sans payer, parce qu'ils n'ont pas du tout d'argent. Donc cette question de l'alimentation qui est posée aujourd'hui partout, et ben, quelque part vous y répondez sur votre quartier.
Oui, tout à fait. Mais comme tout à l'heure, on va commencer des débats. Donc on va parler de tout ça là, parce que les gens qui viennent, bon, donc pour qu'on va comprendre notre situation, donc on va parler de tout ça là tout à l'heure, pour que les gens qui, voilà, les gens qui viennent là. Voilà, parce que comme bon, on a vu mes collègues sont là, Bon, presque, il va expliquer bien plus que moi.
Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces pour avoir répondu à cette interview. Merci.
Njarabi mafeganyalo nyela nterini nterini kabediza nekanu I want to know.
Donc là, on est au foyer Branly. Il y a une journée de soutien, entre autres, à la cantine du foyer. Il va y avoir une projection d'un film et ça s'appelle Voyage en tête étrangère. Et tu es l'un des réalisateurs, c'est ça, du film. Tu peux nous en parler un peu?
Bah, comment j'ai fait? En fait, le film, j'ai commencé à le préparer en 2020, lorsqu'il y a eu des manifestations de sans-papiers qui se sont déclenchées à Paris, juste au sortir vraiment du confinement, du Covid.
Ils nous ont libérés, j'ai envie de dire.
Voilà. Donc à partir de là, il y a eu pas mal de rencontres avec différents collectifs de sans-papiers, donc certains qui étaient historiquement déjà très installés, comme la coordination, le CSP 75. Et puis un autre qui était déjà un petit peu plus ancien, mais quand même relativement jeune encore, le CSP 20e. Et puis un dernier qui était vraiment en création, voilà, qui était tout jeune, qui est le CSP Montreuil, qui a été aussi, dont plusieurs membres ont participé au film. Alors ce qui est un peu particulier, c'est que, c'est, une fois de plus, ce n'est pas un documentaire. C'est une fiction, c'est-à-dire que moi, quand j'étais, on va dire, en situation de repérage, à accompagner un petit peu les âgés, les manifs, etc., à chaque fois, j'essayais d'expliquer que mon but final, c'était de faire une fiction, ce qui était toujours un petit peu difficile à faire comprendre, parce qu'on s'attend plutôt à avoir un documentaire sortir de ce type de démarche. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes, donc des membres, des camarades, membres des collectifs qui ont donné un petit peu leur avis sur ce qui pouvait être dit ou ce qui pouvait être, apparaître dans le film. Donc, effectivement, il y a différents points de vue. Voilà, de différentes personnes, de différents collectifs qui s'expriment à travers le film. Et puis, il y a aussi, donc, des personnes qui jouent, entre guillemets, leur propre rôle, si je peux dire, même si c'est toujours fictif, hein, dans le film. Voilà. Donc, c'est un film qui a été finalisé en 2022. Mais on est toujours avec le projet, l'ambition de le faire sortir en salle en France, puisqu'on a réussi à le faire beaucoup tourner en festival, mais principalement à l'étranger. On a une quarantaine de festivals à notre actif sur ce film, et puis pas mal de prix, etc. Donc ça nous permet de revendiquer, le sortir également en salle, même si c'est un film qui est fait, entre guillemets, à l'arrache, sans production, sans subvention, sans agrément, avec la force de la conviction, avec la solidarité aussi de pas mal de collectifs, d'associations qui ont donné comme ça de chacun des coups de main, et des petits coups de main plus des petits coups de main bout à bout, ça a permis de finaliser ce projet, quoi.
Et donc tu l'as réalisé conjointement avec des collectifs de sans-papiers?
Complètement, c'est-à-dire que moi au fil de mes, on va dire, de mes repérages, comme je disais tout à l'heure, là où je participais, j'écoutais, je venais aux âgés, j'ai fait énormément de manifestations avec eux. Et à un moment donné, tout ce que j'ai entendu, j'en ai fait une sorte de synthèse, mêlée un petit peu aussi avec mon imaginaire, parce que mon imaginaire est venu se greffer là-dedans, puisque ça reste un film de science-fiction. Il a fallu que je leur présente le projet. Et ça a été vraiment mon oral de passage, entre guillemets, parce que c'est là où, effectivement, ils m'ont dit « Ah oui, tiens, c'est vraiment c'est ton projet, ça nous interpelle, il est un peu bizarre parce qu'on ne voyait pas un signe de science-fiction, on ne voyait pas trop le rapport avec nous, ce qu'on vit. » Mais au final, ils se sont pris au jeu, et effectivement, il y a eu des discussions, parce qu'il y a eu des réunions où eux-mêmes, entre eux, parfois, ils n'avaient pas forcément les mêmes points de vue sur tout. Mais justement, ces points de vue, on les retrouve dans le film, et c'est ça qui est intéressant, je trouve.
L'idée forte, on va dire, ou même ce que tu projettes dans ce film, c'est quoi ?
Il y a plusieurs idées fortes. Bon, de toute façon, ce qui guide le film, c'est l'histoire du déracinement, puisque c'est l'histoire d'esprits extraterrestres, donc d'aliens qui viennent d'ailleurs et qui sont en exil sur Terre. Donc il y a comme ça une mise en abîme, une métaphore de la question de l'exil. Et puis on voit aussi dans le film que c'est aussi un hommage à l'engagement en général. En préparant ce film, j'ai fait beaucoup de rencontres de gens qui sont engagés sur différentes causes sur le terrain. Alors la cause des sans-papiers, c'est celle qui, on va dire, sert à illustrer tout ça, mais c'est un hommage à l'engagement, je vais pas dire au militantisme, mais à l'engagement plutôt.
Je te remercie, je t'en prie. On va voir tout ça.
Merci. Merci à toi.
Bon, une petite introduction. Antonio, bon, c'est la réalité, le réalisateur du film, mais aussi c'est un camarade de lutte. Parce que bien avant le projet, il était là. Ce film est né dans un contexte très particulier, parce que c'était, entre 2020 et 2021, il y avait de grosses mobilisations de sans-papiers. C'est un moment historique de la lutte des sans-papiers. Il y avait des collectifs de sans-papiers qui naissent dans tous les sens. Ce moment-là, c'était très important. Du coup, Antonio nous a parlé de ce film. Nous, au début, on ne comprenait pas c'était quoi. On pensait que c'était un documentaire. Bon, on a discuté, on a fait plusieurs réunions ensemble. Finalement, on a compris que c'était un film de fiction dont il va y apparaître nos combats, nos organisations. Bon, on s'est dit, mais pourquoi pas? C'est vrai que moi, comme beaucoup d'autres camarades, on n'a jamais tourné dans un film. Mais ce qui était présent, on avait une envie urgente, c'était comment faire passer le message? Comment faire exister nos luttes à travers l'écran? Comment toucher d'autres milieux sociaux? Parce que la question de sans-papiers, il faut vraiment, pour comprendre, il faut que les personnes concernées en parlent. Parce qu'il faut les vivre pour qu'on parle. Dans ce sens-là, on a participé pour le tournage, vous verrez. Il se passe beaucoup de choses dans ce film-là. Bah, du coup, le film a beaucoup voyagé, on viendra là-dessus. Antonio est bien placé pour dire tous les mentions qu'il a eues et les sélections officielles qu'il a eues ailleurs du pays. Donc je pense que c'est important aujourd'hui pour nous, ce film, l'effet d'arrêter le temps, c'est-à-dire ces moments-là qu'on militait. Pour ne pas être long, vite fait, nous, le Saint-Bernard, on n'était pas là. On a juste regardé à travers l'écran. Voilà pourquoi c'est aussi important de regarder ces moments 2020-2021 à travers l'écran aujourd'hui, comment s'organiser, comment on faisait, comment les collectifs sonnaient, comment ça se passait dans le foyer. Donc je vais passer la parole à mon camarade. Merci beaucoup.
Bonjour, moi je me présente Touré Anchouman. Comme mon camarade il a assez bien dit, je vous remercie d'abord d'être présent. Tu sais, le moment où on a commencé la lutte, c'était le moment de Covid. Donc tout le monde était à la maison. Mais les sans-papiers, les personnes migrantes qui étaient dehors ou qui faisaient les sales blocs, bon, en ce moment, les lits étaient un peu fermés. Mais à partir du 30 mai, on a organisé une grande manifestation. Ce jour-là, la manifestation était carrément interdite. Bon, du coup, nous, on a forcé. Il y a eu beaucoup d'arrestations en ce moment. C'est à travers cette arrestation, beaucoup de ces arrestations que nous, on a eu l'idée pourquoi ne pas créer de collectifs autour. Maintenant, c'est là, en Zandré, on a eu tellement de collectifs dont on a créé celle de Montreuil. On s'est réunis dans les différents foyers parce que pour pouvoir essayer de toucher des sans-papiers, les sans-papiers, ils se trouvent où? Dans les foyers. On a essayé de partager les tasses dont on faisait des réunions dans les différents foyers, dont le foyer Branly fait partie de ce foyer. Il y avait trois grands foyers dont on faisait nos réunions hebdomadaires chaque mercredi. Bon, du coup, on a beau travail même dans nos réunions avec Antonio. Du coup, c'est à travers ça, vu qu'il voit notre lutte acharnée, il a essayé de nous proposer ces films dont ça va essayer de parler de nos luttes, ça va essayer d'art. Parce que quand on regarde aujourd'hui, sur les médias, ce qu'est en train de dire sur les immigrés, c'est absolument faux. Tandis que quand on regarde la réalité des choses, ce n'est pas vrai. Mais quand ils vont sur le plateau télé, ils parlent que des choses négatives sur les immigrés. Alors que nous, les immigrés, on est la base de l'enrichissement de l'économie française. Mais ils n'en parlent pas. Après, à travers lui, avec son travail acharné, on a essayé de monter dans les différents endroits dont le film a fait des voyages hors de France, qui est une réussite totale hors de France. Merci.
Ok.
Donc il y avait aussi, juste devant le foyer, une émission de radio quasi permanente, plusieurs heures de débats, discussions de personnes qui se relaient pour apporter du contenu à cette journée.
Mais la cantine, c'est un lien social, c'est un lien où on peut venir discuter, c'est un lien où on peut venir manger, et c'est un lien qu'on ne te demande pas ton origine pour pouvoir acheter, c'est un lien qu'on ne te demande pas combien tu as dans ta poche pour pouvoir manger. Donc si nous, on n'a pas ces cantines-là ici, ça va être très très difficile. On a des personnes âgées qui sont à la retraite, qui n'ont aucun accompagnateur sur eux, ils n'arrivent pas à cuisiner, mais par contre, s'ils viennent à la cantine, ils peuvent acheter et manger aussi tranquillement. Donc de ce fait, s'il n'y a pas la cantine, ce n'est pas bon pour nous, les immigrés, ce n'est pas bon pour le quartier, parce que ce n'est pas que les sans-papiers seulement qui viennent. Les cuisiniers, ils sont tellement gentils, même s'ils voient une personne qui a faim, qui vient devant eux, qui n'a rien, ils sont capables de leur donner le plat à manger à sa faim. Parce qu'on a cette générosité entre nous, que si on n'a pas à manger, qu'on voit une personne manger, si on n'a pas à manger, on le donne pour qu'ils puissent manger, parce que personne ne devrait mourir de faim là où nous sommes dans ce monde-là. Personne ne devrait mourir de soif là où nous sommes. Mais par contre, si on voit qu'on veut nous supprimer ces cantines-là, il faut qu'on se bat jusqu'au dernier souffle de nos vies, parce qu'on ne va pas se laisser faire. La cantine est primordiale pour nous. Je peux dire bravo au soutien, parce que quand on regarde ici, il n'y a que des soutiens qui ne sont pas concernés par la lutte, qui sont là, plus que nous-mêmes qui sommes concernés. Et on laisse des trucs qui nous sont primordiales pour s'occuper des choses qui ne sont pas prioritaires. Parce que tous ceux qui sont là, ils ont une famille au pays, ils ont une mère, une tante. Nous, on est des familles élargies. Tu peux avoir une personne qui a plus de 40 personnes dans sa famille, puis en travaillant, il peut s'occuper d'eux, mais s'il n'a rien, de s'occuper de lui-même, comment il peut s'occuper d'autres personnes. Donc de ce fait, pour pouvoir lutter et travailler dignement, ne pas accepter tout le salaire, c'est avoir son titre de séjour. Le collectif sans papier, on fait partie du collectif sans papier de Montreuil, mais on ne se limite pas qu'à Montreuil. On était même hier à Créteil, parce que les préfectures sont devenues la fabrique des sans papiers. Les gens n'arrivent pas à avoir des rendez-vous pour pouvoir renouveler leur titre de séjour. Il y a des personnes qui sont là depuis 10 ans. On leur demande une autorisation de travail pour renouveler leur titre de séjour. Beaucoup de gens ne savent pas, mais ils vont le savoir bientôt, parce qu'il y a des systèmes qui sont là pour casser la régularisation. C'est pour remettre les gens qui étaient en situation régulière en situation irrégulière. Quand on n'a pas le titre de séjour, ça nous fait perdre tous nos droits. Un patron qui, tu ne t'entends pas bien avec lui qui était en CDI, ben, il profite, si tu n'arrives pas à renouveler ton titre, hein, moi, il profite pour te licencier. Là, il serait tranquille. Un sans-papier, il est capable d'accepter un travail indigne qui on ne peut pas donner à quelqu'un qui a le titre de séjour. Le travail qu'on peut faire en 7 heures, on le donne à un sans-papier en 2 heures ou 3 heures. Donc, du coup, c'est la maltraitance qui se passe. C'est la maltraitance au niveau du travail, c'est la maltraitance au niveau de la situation. Donc de ce fait, on demande à tous les gens du foyer, tous ceux qui sont là, ils sont là pour nous aider. Il faut que nous-mêmes, on soit là aussi pour nous. Et il ne faut pas penser qu'eux aussi n'ont pas de problème. Tout le monde a des problèmes à son niveau. Mais il faut que nous-mêmes, on comprenne qu'ils sont là pour nous aider. Un jour, ils peuvent avoir besoin de nous, qu'on soit présents aussi. Mais beaucoup de gens pensent que quand on est là, on est blanc, on n'a pas de problème, on a tout ce qu'il faut. Mais la vie en France maintenant, même ceux qui soutiennent les étrangers sont réprimandés par l'État. Toutes les associations qui soutiennent les étrangers sont réprimandées par l'État. Tous les partis politiques qui sont pour aide aux étrangers sont considérés comme les gens qui ne sont pas patriotes en France. Or que la France, quand on regarde la population française, l'immigration, ce n'est pas que la peau qui compte. Parce que nous, on est très visible parce qu'on est noir. Sinon, il y a des Italiens, des Espagnols, de l'Amérique latine qui sont des peaux blanches, qu'on pense qu'ils sont français quand ils nous parlent. Or qu'on est tous des étrangers. Tu regardes les origines, 20%, 30%, 40%, jusqu'à 50% de la population ont tous des origines. Donc du coup, de ce fait, il faut qu'on ne se lasse pas, qu'on dise que et on est issu de l'immigration, ce n'est pas un fait mauvais en soi, c'est juste le monde est fait ainsi. Les êtres humains devraient se déplacer là où ils veulent. Le président Sarkozy, lui, il est issu de l'immigration, si on parle, sans passer par les gens qui sont contre l'immigration, qui est Zemmour, qui n'a même pas, qui aussi est issu de l'immigration, ainsi de suite. Donc il ne faut pas avoir honte de défendre son statut. Il faut s'intéresser à la lutte, il faut s'intéresser au collectif sans papier pour qu'on puisse travailler ensemble, défendre l'égalité des droits, c'est ça qui est commun. L'égalité des droits est primordiale pour tout le monde. On va lutter ensemble, on ne va pas lâcher. Merci.
Vous avez évoqué des sujets concernant les demandes de rendez-vous à la préfecture, qui est de plus en plus dur. Je suis bien conscient que vous faites partie des collègues du collectif des sans-papiers. Est-ce que vous avez déjà mis un terrain de bataille sur place? Et vous avez dit aussi les gens qui sont concernés de se concerner, c'est-à-dire amis à cette situation, de s'intéresser davantage, de venir faire la lutte avec vous pour essayer d'agrandir vos rangs. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. C'est bien sûr sur leur intérêt. Est-ce que vous avez déjà un plan qui est préétabli que vous pouvez m'en dire en fait?
La base même pour créer l'intercollectif, c'était ça. Et chaque collectif était dans son coin, dans son département. Du coup, on a essayé d'unir nos forces pour essayer de créer l'intercollectif, faire une manifestation dans chaque préfecture. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous, nous sommes dans un état de droit. Tous les gains de cause qu'on a eu aujourd'hui, dont on peut se vanter tel que le 1er mai, tout ça est obtenu par des grèves, par des manifestations, par des travaux acharnés de certaines personnes. Du coup, dans notre tête, on lutte pour nous, pour pouvoir essayer d'avoir gain de cause, c'est en essayant de manifester régulièrement. C'est pour cela que notre intercollectif est là. Mais j'implore un sujet, parce qu'aujourd'hui, si on appelle les sans-papiers, la plupart, c'est eux qui ne sortent pas. Là, on a besoin d'eux pour pouvoir essayer de contrer à cet état raciste et essayer de dire ce qu'ils disent dans le plateau qui n'est pas vrai. Comme ça, ça va permettre d'ouvrir des portes pour pouvoir trouver des guichets ouverts pour déposer des dépôts.
Ce que vous avez dit sur l'état raciste qui est la France, qui devient la France, nous tous en savons qu'aujourd'hui nous sommes dans une population mixte. Mais même dans ce contexte, si on prend même le cas des Ukrainiens qui ont un passe tout droit au titre de séjour, dont nous qui sommes d'un pays francophone qui n'avons pas droit à ce passe, on pourra bien se poser des questions. En fait, est-ce qu'on doit changer les mentalités où il y a un moment que les jeunes doivent se réveiller pour savoir qu'on doit changer vraiment de mentalité pour partir vers un droit qu'on réclame tous? Ou pour vous, c'est-à-dire, amis, il y a plus qu'à faire encore qu'on n'arrive pas à sauter au-delà de ce qu'on fait déjà, en fait.
Vous avez posé les actes qu'on a fait pour pouvoir pour les demandes de rendez-vous. Il y a pas mal de gens qui pensent à la préfecture que c'est en claquant les doigts que maintenant on peut aller retirer son titre de séjour sans rendez-vous. C'est à partir du 7 mars que nous, on a fait une manifestation à Bobigny, mais quand j'ai été là-bas pour constater les gens, ils pensent que non, le préfet a été gentil, la France a été gentille pour pouvoir nous donner ces droits. Donc, si nous-mêmes, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour de nous, personne ne pourra nous aider. Parce que le problème en est que nous, on pensait que le titre de séjour était à vie. Maintenant, il y a le circulaire Retailleau qui est là. Il y a les conditions qu'ils ont mis en place qui sont faites exprès pour pouvoir remettre en situation une situation irrégulière. Les gens qui sont là pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 30 ans, tu as une carte de résident, toutes les situations qui sont mises en place pour que les gens puissent reperdre leur titre de séjour et rester sans droit aussi. Donc de ce fait, il faut que nous-mêmes on se lève, on se bat en un seul homme pour pouvoir demander la régularisation, pour pouvoir demander le renouvellement, l'ouverture de guichets et le bon traitement des immigrés. Les Ukrainiens, on peut dire que, parce qu'ils ne pensaient pas que la guerre, ça peut venir en Europe. Ça a été le point fort pour le gouvernement pour savoir que la guerre, nulle part, on peut l'échapper dans ce monde-là. Donc quand les Ukrainiens sont venus, qui ne parlent pas français, qui n'ont aucun à voir avec la France, parce que les intérêts que la France a, il y en a plus en Afrique et en Ukraine. Mais par contre, ils suivent des logiques coloniales Tous ceux qui sont de l'Afrique, ce n'est pas des êtres humains, parce que si ça ne vient pas d'ici, c'est des sous-hommes. Donc du coup, nous-mêmes, on se traite comme des sous-hommes aussi. Il y a des élections à venir. Les gens qui sont issus de l'immigration, intéressez-vous à la politique. Parce que personne ne peut parler la souffrance que nous, on vit, plus que nous-mêmes. Parce que tous ceux qui parlaient à notre place, ils peuvent dire un peu. Mais c'est nous-mêmes qui savent ce qu'on vit. Donc c'est nous-mêmes qui peuvent exposer, c'est nous-mêmes qui peuvent demander l'égalité des droits. Tant qu'on ne s'intéresse pas à la politique, nous-mêmes, et on ne s'intéresse pas aux situations des autres. Parce que pour nous, si ça ne me concerne pas moi-même, ce n'est pas mon problème. On est là dans un foyer où il y a plus de 1000 personnes, 2000 personnes. Regarde, c'est qui sont là plus que nous. C'est les personnes qui sont 10 km, 5 km, 1 km, même 100 mètres pour venir ici, pour nous soutenir. Mais nous-mêmes, on dit ils ont la vie facile, c'est pour cela qu'ils sont là. Non, ils ont des problèmes aussi. Il y a plein de gens qui nous aident, qui ont des problèmes réprimandés par l'État, qui peuvent être en garde à vie, qui peuvent avoir des poursuites judiciaires parce que ils ont dit des mots où ils ont soutenu les étrangers. Donc si nous-mêmes, on ne s'intéresse pas à nous-mêmes, eux aussi, ils n'auront pas la force. Ils ont la force quand ils s'appuient sur nous pour qu'on puisse nous défendre nous-mêmes. Donc du coup, il faut qu'on sorte ensemble. Merci.
Voilà, donc il y avait aussi, juste devant le foyer, une émission de radio quasi permanente, plusieurs heures de débats, discussions de personnes qui se relaient pour apporter du contenu à cette journée. Cette journée du 24 mai et cette troisième édition des Journées culturelles du Foyer Branly était particulièrement dédiée au maintien de la cuisine dans le foyer. Alors là, on est dans la cantine du Foyer Branly. C'est quand même une journée de soutien à la cantine. Est-ce que vous pouvez, alors vous êtes deux cuisinières, vous nous avez préparé un repas complètement dingue, avec plein de trucs très très différents à manger. Vous habitez pas au foyer, puisque c'est un foyer d'hommes.
Bonjour madame.
Bonjour.
Je m'appelle madame Traoré Nana.
Et donc toi, tu es cuisinière?
Oui, je suis cuisinière dans la cuisine.
Tu viens tous les jours?
Oui, on vient tous les jours. Non, on travaille une semaine sur deux. Voilà.
Oui. Aussi, du coup.
Ma chef.
Ah, la chef. D'accord. Et donc, toi, tu t'appelles comment?
Moi, c'est Sadio Traoré.
Et toi, tu viens une fois sur deux?
Oui.
C'est ça?
Oui. Moi, je viens. On travaille une semaine sur deux.
D'accord.
Oui, ça, c'est deux groupes. Voilà, c'est deux
Et
groupes.
Et vous préparez à manger pour combien de personnes?
À peu près, souvent, ça varie. On peut faire 100, 120, 150.
On s'est rendu compte qu'on pouvait manger ici pour 2, 3, 4, 5. Ça dépend ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'on peut manger pour très, très peu d'argent finalement. Et pourquoi c'est important d'avoir une cantine dans un foyer de travailleurs?
Et bien sûr, c'est important de travailler dans une cantine. Parce que tout le monde n'a pas de sous pour aller acheter dans les restaurants.
D'accord.
C'est pour cela que on a fait la cantine ici.
Pourquoi c'est important selon toi?
Pour préparer ici.
Ouais.
Oui, c'est bon. Ça nous arrange tout le monde. Parce que surtout les résidences du foyer. Bon, ils vont aller au travail. Nous, on prépare. Avant qu'ils viennent, s'ils ont venu, ils ont fatigué. Ils ne peuvent pas préparer. Ils sont venus, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas préparer. C'est nous qui préparons. Ils viennent, ils achètent seulement, ils rentrent, ils se reposent. Et puis, les quartiers aussi, les gens du quartier aussi, ils viennent, ils achètent parce que les plats, c'est moins cher. Voilà, c'est moins cher. 2,80 €, 2,50 €. Voilà, si c'est emporté 2,80 €, si c'est mangé ici, c'est 2,50 €. S'ils ont amené son plat aussi, c'est 2,50 €. Oui.
Quand du foyer se réveille à 4h du matin, et de 4h du matin à 18h, on est claqué pour venir préparer. carrément.
Et peut-être aussi dans les chambres hein, qui sont toutes petites, il n'y a pas forcément de cuisine aussi.
Oui, c'est vrai. Les chambres, c'est petit. Il n'y a pas cuisiné aussi. Voilà, c'est petit. Il peut pas cuisiner là-bas.
Ouais, oui. Donc, ils ne mangeraient pas des plats chauds, cuisinés, si vous n'étiez pas là, quoi.
Voilà.
Ouais. Et donc là, il y a, à chaque fois qu'on casse un foyer et qu'on en reconstruit un autre, plus propre, évidemment, mais en même temps où il n'y a pas. Il n'y a pas de cantine. Donc du coup, c'est un peu ça aussi qui pose problème quoi, dans la vie de tous ces travailleurs sans papier ou avec papier.
Oui. Bon, c'est un peu difficile. Et puis, nous, les Africains aussi, on ne même pas les Grecs, tout ça. Nous, on veut des riz avec sauce, les tchèques, tout ça. Ouais. C'est nous...
Oui, c'est une manière de manger.
Parce qu'on est habitué à manger de chez nous. On n'est pas habitué à manger des blancs. C'est pour cela.
C'est surtout que c'est vachement pas cher. Et que pour 2,50€, on a de la viande, des céréales, des légumes, enfin tout un tas de choses équilibrées hein, pour pouvoir se nourrir correctement. Quoi. Alors par rapport au foyer Branly, est-ce que vous êtes au courant de comment ça se passe au niveau de la cantine et peut-être de la volonté de fermer cette cantine ?
Ils ont dit que. Ils vont faire une nouvelle résidence. Bon, nous, on est là pour lutter pour qu'on nous laisse la cantine. Voilà, on veut, oui, carrément.
C'est-à-dire que dans ce nouveau foyer, il y a aussi un espace collectif, une cuisine suffisamment grande pour faire à manger pour 150 personnes. Oui. Hein, c'est ça que vous demandez, quoi.
Oui, c'est ça qu'on demande. Avant de finir la nouvelle résidence, il faut qu'il nous fasse une grande cantine. Ouais. Comme ça, carrément, puisqu'on puisse préparer pour donner aux habitants.
Et vous êtes payé pour faire à manger ?
Nous, on partage entre nous.
Ah, vous partagez entre vous en fait.
Le reste de l'argent, parce que c'est les livreurs, on demande les riz, les tout.
D'accord, c'est vous qui faites les... course
voilà.
Avec l'argent qui est récolté par les repas. Et après, vous partagez un peu les bénéfices aussi.
Voilà,
d'accord, ça vous permet quand même de vivre, de faire à manger.
Voilà.
Ok, d'accord.
C'est ça, oui.
Que c'est hyper important que cette cantine perdure. Et en plus, il faut dire que, comme tu le disais, il y a aussi les gens du quartier qui en profitent.
Oui. Hein? Les gens du quartier, ils profitent bien. C'est lui qui profite bien. Parce que même les enfants, là, ils viennent, ils n'ont pas mangé. Ils viennent, nous, on donne les frites. Les gens aussi, ils n'ont pas l'argent. Ils viennent, ils vont dire qu'ils n'ont pas l'argent. On a faim. Nous, on donne. Voilà, nous, on donne gratuit. Voilà, c'est comme ça, on donne gratuit. Mais nous, on veut que les résidents, l'autre foyer, là, le nouveau foyer, s'ils vont ouvrir, ils vont faire une grande cantine pour qu'on puisse aller travailler. Nous aussi, on n'a pas d'autre boulot. Nous, on n'a que ça. Voilà.
Elle est dans ça, bientôt, ça va faire 17 ans. Oui, et moi, je suis à ma 11e année comme ça.
Ça fait 11 ans que tu fais à manger comme ça ?
Oui, elle est là.
Et toi, 17 ans,
ouais. Ouais, on n'a pas d'autre choix, on n'a pas de boulot. Hein.
Ouais,
si la cantine, là, ça se ferme, on est foutu. Hein.
Ouais.
Ah oui.
D'accord.
Carrément foutu. Hein.
Bah, merci beaucoup en tous les cas pour toute cette nourriture et puis cette solidarité, hein, cette nécessité de maintenir cette cantine pour à la fois pour vous deux évidemment, mais aussi pour tous les résidents et tous les gens du quartier et puis les gens qui n'ont rien à manger, qui peuvent manger grâce à vous. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi. Nous, on voulait, vous nous soutenir aussi pour que ça reste. Parce que nous, on n'a pas d'autre boulot. On n'a pas de papier, on n'a pas d'autre boulot. On n'a que ça. Voilà.
Faut que
le travail continue.
Ça continue. Ça nous fera plaisir quand même.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Il y a l'insalubrité dans le foyer, dans la cuisine, que ce n'est pas aux normes.
Bon, comment tu as même fait la cuisine encore? Tu as même été aidé.
Il y a beaucoup de choses qu'on rencontre qui n'est pas la vérité.
Bah, dans la cuisine, tu as oublié que tu as oublié parce que tu as oublié que a mago be fɛn minnu ni fɛn minnu na fo a k'olu labɔ fɔlɔ ka tobili kɛ.
Si on prépare, il y a beaucoup de choses dont on a besoin qu'on doit sortir pour préparer. C'est obligé que peut-être au départ, ça peut être un peu, ami, les trucs seront un peu éparpillés partout, mais en fait, ami, ça c'est tout à fait normal.
Bon, on a un clan, l'autre oubli, nous n'y faisons, nous n'avons pas de choses, nous n'avons pas de choses, nous n'avons pas de choses.
Une fois qu'on termine la journée, nous on lave la cuisine et on nettoie tous les ustensiles de la cuisine en fait et le mettre au propre en fait.
Voilà. Bon, mon bébé fait un faut qu'on cuisine nos rollins de encore une barre qu'on ne connaît qui est là n'est qu'à équipe qu'on c'est impeccable.
Les gens ils racontent beaucoup de ragots comme partout en fait, mais dans la cuisine il n'y a pas de saleté et surtout quand je suis là la semaine où je suis là, je peux vous assurer qu'elle est propre, elle est tout à fait propre.
Alors du coup, il y a toute l'équipe des cantines d'aujourd'hui et de cette semaine ici du foyer Branly, mais il y a aussi une invitée qui est Camissa, qui du coup est cantinière du foyer Barra. Et donc du coup, je voulais qu'ils traduisent la question sur la cantine des Barra n'a pas réussi dans sa lutte à rester dans le foyer des Barra, mais continue d'exister aujourd'hui et que tu puisses, Camissa, nous dire dans quelles conditions. De façon à ce que l'équipe aussi d'ici et tous les résidents d'ici puissent exprimer leur espoir et la lutte d'aujourd'hui qui est de continuer à avoir une cantine ici dans ce foyer aux normes, dans de bonnes conditions de travail pour que les habitants, les résidents mais aussi toutes les personnes qui profitent de ces repas pas chers puissent continuer à en profiter.
Bonjour. Donc, mesdames, il faut Neni Mbalma Mousso Beikeli Yame, hein? Ah oui, neni mbalma muso beikele. On venait de une situation là. Ne baraga ribara pendant 15 ans aussi. Mais oui, à date, oui, il ne faut qu'à une cuisine rétapée. Mais on m'a rétapée.
Voilà, comme ça.
Je suis dans la même situation que ma soeur qui est là. C'est ce qui nous a été dit aussi à Rubara quand ils ont commencé, en commençant à nous dire qu'ils vont faire juste des travaux. Et au final, ils ont fermé en fait. Donc, j'ai été à Rubara pendant 15 ans environ. Je viens les soutenir pour leur montrer qu'on est tous pareils en fait.
Voilà, donc en Andija, en Mébaraïnke, Mokelente, Toubabou, aussi à Bébé Saninga en fait.
Le travail, nous, on le faisons, c'est pas juste pour les Africains, les Blancs, les Chinois, les Asiatiques, peu importe ta race, ta nationalité, tu peux venir acheter à manger. Il y a tout le monde vraiment qui vient acheter à manger, effectivement, en fait.
Donc, ni Rubara Drone de Bamboula, ni Roger Brin, Amandija, Nambolo de Nyoma, Canada, tout, parce qu'il y avait peu d'arrangés.
Il n'y a que ici, Rocher Brine qui reste, on doit être, se réunir, être plus fort, de faire tout, de mettre tout en œuvre pour que ça ne se ferme pas définitivement.
On est bénévole, il faut un ancestre, un ouligandjo. Nous, on essaie de travailler, on essaie de amener sur le travail, on est à nos redonner. Mais nous, on essaie de travailler, on veut vous savoir quoi.
La réalité aussi est que, c'est-à-dire à même pour le foyer, ça fait quoi? Ça fait 15-16 ans depuis qu'ils étaient là, ils n'avaient jamais vu un travaux se réaliser à l'intérieur de la cuisine. C'est pour cela que c'est un peu insalubre. Mais s'ils fassent le travail et qu'on puisse se maintenir à l'intérieur avec la cantine, ça sera formidable. Mais en comptant aussi sur tout le monde, le soutien de tout le monde, ainsi que les protagonistes même pour soutenir et pour que, faire un bloc pour que la cantine ne se ferme pas.
On y arrive plamini, agachana me mire sur me bara in canule bana quoi.
Et que nous en donnons même, c'est-à-dire à mes gratuits, c'est plus que ce que on reçoit. Mais on a l'amour de ce travail et on peut pas laisser aussi toutes ces gens qui sont en détresse, qui viennent nous demander de la nourriture que on donne plus que on ne reçoit en fait.
On est à la de Delhi, tout est belle, bara ni Canada tout.
Nous prions, nous continuerons à prier en Dieu pour que ici ça ne sera pas fermé et que la cantine ne sera pas fermée.
Et si la cantine se ferme, ça sera une catastrophe, parce que il y a plusieurs personnes qui sont venues par la mer, qui sont là, qui sont sans ressources ni rien, et ils viennent ici pour manger, pour essayer de mettre quelque chose sur leurs dents. Donc si la cantine arrive à être fermée, ça sera vraiment une catastrophe. Donnons-nous la main, donnons-nous la main. Elle insiste de se donner la main, de se redonner la main, de se lever, de former un bloc, amis, pour que la cantine du foyer n'arrive pas à se fermer, en fait. Donc, elle a insisté là-dessus, dès la prise de sa parole, de se donner la main, de continuer à se donner la main. Y a-t-il peut-être un intervenant ici, quelqu'un qui veut poser une question aux dames du foyer, qui soit curieux de savoir quelque chose, vraiment, le micro reste ouvert à tout le monde. Hein.
Oui, moi ma question, c'est savoir qu'est-ce que les gens des cantines ont pu mettre en place pour que la cantine ne se ferme pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité pour que ça ne se ferme pas?
Bon. An ye fɛn caman bila sira kan kantini kana se ka datugu. Parce que ne ni mɔgɔ minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ, n'o ne ka ɲɛmɔgɔw ye, n'o ye jelikew ye. Depuis ko n daminɛra, u bɛ boli la, u bɛ don mɔgɔw kan. Anw yɛrɛ minnu fɛnɛ filɛ, n'an bɛ baara la kɔnɔ, an bɛ Ala deli a kana datugu. An fɛnɛ se ye mun ye, an bɛ Ala deli a kana datugu. An kɔni se wɛrɛ t'anw ye dɛ, an bɛ min fɔ dɔrɔn, an ka soutien u k'an dɛmɛ dɔrɔn. A kana datugu. Kantini kana datugu cogoya si la. An k'an jɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan hali bi, an ka kɛ jamakulu kelen, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Paseke ko min don, jama jɛlen ne bɛ bi fɔ. N'aw jɛra, ni hali ni ko fɔra, n'aw jɛra, n'u y'aw jɛlen, ka fara ɲɔgɔn kan, a bɛ se ka kɛ u b'a a bɔ a ma. O de don. An ye wulikajɔ caman kɛ. Ne yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ caman kɛ su fara tile kan. I m'a ye wa? O de don.
Moi, je travaille avec les délégués qui sont mes patrons de base. Ils se sont levés, ils ont fait beaucoup de choses. Ils sont rentrés un peu partout, à la mairie, un peu partout, avec les soutiens qui sont là aussi avec eux jour et nuit pour essayer de faire en sorte que la cantine ne se ferme pas. Donc elle sait qu'elle dit si elle n'a pas d'autre choix, la seule choix qu'on a c'est de prier Dieu. Mais en priant Dieu aussi, c'est-à-dire amis, il n'y a pas que ça. Il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on soit un seul homme. Un seul homme à protester, à montrer notre mécontentement face à cette fermeture de la cantine. Donc si on est nombreux et que dans l'adversité, elle est sûre qu'on pourra gagner.
Je voudrais juste rajouter qu'il y a une association pour la sauvegarde de la cantine qui est en train d'être constituée, dont les statuts vont être bientôt déposés. Une association dans laquelle il y aura les cantinières, bien sûr, les résidents et le soutien.
Ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur l'école Garrigue à Montpellier, Canastille, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.